Imaginons un instant la scène. Un grand leader politique se retrouve face à la plus grande armée de l'histoire. Genre, l'empire le plus terrifiant de son époque.
Ouais, une pression inimaginable.
Exactement. Et là, la destruction totale de sa nation semble juste inévitable. Et pourtant, il ne cligne même pas des yeux. Il réussit le test de foi ultime. Il tient bon et il voit son peuple sauvé par un miracle complètement inexplicable.
C'est vraiment l'apogée d'une vie, quoi. Le triomphe absolu.
C'est ça. On est au sommet. Et puis, bah, juste après ce moment de bravoure épique, ce même grand leader détruit complètement l'avenir de sa propre famille et de son pays.
Ah oui. Et le pire, c'est que ça se passe lors d'une simple visite diplomatique de courtoisie, en temps de paix.
C'est fou, non? C'est le paradoxe humain absolu.
Complètement. C'est un effondrement psychologique et spirituel, mais spectaculaire. Passer du courage le plus total face à l'annihilation à une espèce de vanité destructrice autour d'une simple tasse de thé avec des ambassadeurs étrangers.
C'est exactement cette bascule fascinante qui est au centre de notre exploration aujourd'hui. On plonge en profondeur dans les notes d'enseignement du Dr John Oswalt, et plus précisément, cette 19e session.
La session qui décortique les chapitres 38 et 39 du livre d'Ésaïe, c'est bien ça?
Voilà. Notre mission aujourd'hui, avec ces sources, c'est de comprendre les rouages de cette chute. Comment la survie à une crise majeure peut-elle engendrer un tel aveuglement juste après? Donc bon, décortiquons tout ça.
Je suis prête.
Pour bien poser le décor pour ceux qui nous écoutent, le contexte général de ces chapitres fait écho aux chapitres 7 à 12. Dans le passé, on avait le roi Ahaz qui avait lamentablement échoué à faire confiance au divin face à une crise.
Ouais, il avait complètement paniqué.
C'est ça. Et ici, son fils, le roi Ézéchias, vient tout juste d'inverser la malédiction. Face à la redoutable machine de guerre assyrienne qui assiège Jérusalem, mais il garde la foi. Et la ville est épargnée.
On a notre fin hollywoodienne, en fait.
Grave. Le générique devrait défiler, là.
Sauf que bah, le texte ne s'arrête pas là. Et c'est là que l'auteur introduit une véritable anomalie temporelle. Un truc qui change toute notre lecture de l'événement.
Attends, une anomalie temporelle?
Ouais. Pour comprendre le comportement d'Ézéchias, il faut d'abord résoudre un puzzle chronologique assez complexe qui est soulevé par nos sources.
Ah, je vois où tu veux en venir.
Le texte introduit l'arrivée d'un émissaire babylonien, un certain Mérodac Baladan, mais quand on croit ça avec les archives historiques globales de l'époque, ben les mathématiques ne fonctionnent pas du tout.
Ah oui, c'est le fameux problème de la date de 701 avant notre ère.
Exactement. L'an 701, c'est la date bien établie de la délivrance de Jérusalem contre l'armée assyrienne de Sanchérib.
D'accord.
Or, ce fameux Mérodac Baladan, dont la carrière politique ressemblait à des montagnes russes au passage, n'était très probablement plus au pouvoir en Babylonie à ce moment-là.
Ah bon? Mais il était là quand alors?
Son influence politique se situe plutôt autour de l'an 710, soit presque une décennie plus tôt.
D'accord, donc 10 ans avant le Grand Siège. Et les notes du docteur Oswalt pointent aussi un énorme casse-tête concernant les dates de règne d'Ézéchias lui-même, non?
Tout à fait. Les spécialistes débattent encore de dates qui sont hyper conflictuelles. Certains plaident pour un règne de 726 à 696, d'autres de 716 à 686. C'est un vrai bazar.
Du coup, comment on s'en sort avec tout ça?
Eh bien, quand on synthétise toutes ces données historiques et textuelles, il y a une conclusion logique et incontournable qui s'impose. Les événements dramatiques relatés dans les chapitres 38 et 39, c'est-à-dire la maladie mortelle d'Ézéchias, sa guérison miraculeuse et la visite des Babyloniens,
ouais.
Eh bien tout ça, ça s'est en réalité déroulé avant la grande victoire militaire contre la Syrie qu'on trouve au chapitre 36.
Avant?
Ouais.
Donc l'auteur biblique a pris la décision délibérée de bouleverser l'ordre chronologique des événements.
Exactement. L'histoire a été réécrite au montage, en quelque sorte.
C'est fou. C'est comme... Enfin, ça me fait penser à un réalisateur de cinéma qui choisit d'ouvrir son film avec la grande scène d'affrontement final où le héros triomphe de l'armée ennemie.
Ouais, la grande scène d'action.
Voilà. Puis... Au lieu de clore le film sur cette victoire, boum, il coupe brutalement vers un long flashback super intime des années en arrière.
C'est une super métaphore.
Un retour en arrière conçu spécifiquement pour nous montrer une faiblesse, tu vois. Une faille fatale dans le caractère du héros. Un truc qui explique pourquoi la suite de l'histoire, après le générique du film, sera finalement tragique.
C'est tout à fait ça. Le fait que l'auteur ait volontairement sacrifié la chronologie stricte au profit de la thématique, ça prouve que cette maladie et cette visite diplomatique, ce sont pas des simples anecdotes.
C'est pas juste du remplissage historique.
Pas du tout. Ce flashback, c'est vraiment la clé de voûte pour comprendre la psychologie d'Ézéchias et par extension, l'avenir de toute la nation. Il faut donc qu'on regarde de très près ce qui s'est réellement passé lors de cette fameuse maladie au chapitre 38.
Bon, alors plongeons dans cette scène, parce qu'elle est d'une brutalité assez saisissante. Le roi Ézéchias est gravement malade.
Aux portes de la mort.
Ouais. Et là, le prophète Ésaïe entre dans sa chambre et lui délivre un diagnostic divin qui ne laisse absolument aucune place à l'interprétation.
Ah non, c'est super direct.
La citation est claire. Il lui dit « Mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir. » Bam ! Ce n'est pas un avertissement du type « Si tu ne changes pas de mode de vie, tu vas mourir. » C'est absolu. Une sentence ferme.
Un décret implacable.
Et pourtant, Ézéchias se tourne vers le mur, il se met à prier, à pleurer. Et là, coup de théâtre, le divin fait marche arrière.
Ouais, rétropédalage complet.
Ésaïe reçoit l'ordre d'annoncer à Ézéchias qu'il obtient finalement 15 années de vie supplémentaire. Et là, je dois intervenir, parce que cette mécanique me pose un réel problème de cohérence.
Ah oui, Le revirement pose question, effectivement.
Bah oui. Si on part du principe que les djellirés d'une entité divine suprême sont absolues, omnisciente et immuable, ce changement d'avis soudain, ça ne rend pas le prophète totalement ridicule.
C'est vrai que, vu sous cet angle...
Ésaïe vient juste de prononcer un verdict implacable, le truc hyper solennel, et 5 minutes plus tard, alors qu'il n'a probablement même pas encore franchi la cour du palais, il doit faire demi-tour pour dire « Ah, autant pour moi, les plans ont changé ».
C'est un peu gênant.
C'est incompréhensible d'un point de vue théologique classique, je trouve.
Bah, cela soulève une question importante concernant notre propre lentille culturelle, en fait.
C'est-à-dire ?
Le problème vient du fait qu'on aborde souvent ces textes anciens avec des concepts hérités de la philosophie grecque classique. Tu sais, cette idée d'un divin statique, immuable, presque mécanique dans sa perfection.
Le fameux « moteur non mu » d'Aristote.
Ouais, l'entité parfaite qui ne change jamais d'avis.
Voilà, mais les sources qu'on analyse ici montrent que la théologie hébraïque ne fonctionne pas du tout comme ça. La relation entre l'humain et le divin dans ces textes, elle n'est jamais propre, mécanique ou linéaire.
Elle est comment alors ?
Elle est profondément brouillonne, réactive et dynamique.
Une relation interactive, en somme. Exactement. Le divin n'y est pas décrit comme une force cosmique aveugle, mais vraiment comme un être en relation. Et une véritable relation, ça implique d'écouter l'autre et d'ajuster ses actions en fonction de ses réponses.
C'est un dialogue, pas un monologue.
C'est ça. D'ailleurs, le docteur Oswald fait un parallèle fascinant avec l'histoire de Jonas, qui est souvent mal comprise, exactement de la même manière.
Ah oui, l'histoire de Jonas et Ninive.
Ouais. Jonas traverse Ninive en hurlant une prophétie de destruction totale. Et inconditionnelle, hein, il n'offre aucune porte de sortie aux habitants.
Genre, dans 40 jours, la ville sera détruite, point bas.
Voilà. Pourtant, les habitants changent d'attitude et la catastrophe est annulée. C'est le même principe ici. Le décret absolu est en réalité une invitation à l'interaction.
Ok, je comprends le parallèle, mais il y a quand même une différence psychologique fondamentale entre Ninive et Ézéchias, non ?
Ah, tu penses à quoi ?
Bah, dans l'histoire de Jonas, les habitants se repentent amèrement de leurs crimes. Ils se mettent en deuil, tout ça. Mais quand on examine la prière d'Ézéchias face à son arrêt de mort, il n'y a pas l'ombre d'une repentance ?
C'est vrai, il ne s'excuse pas.
Il ne demande pardon pour rien. Au contraire, il exige presque d'être sauvé en mettant en avant son propre CV spirituel.
Oui, il fait la liste de ses bonnes actions.
Il dit essentiellement « Hey, souviens-toi que je me suis bien comporté, moi. » Et le pire, c'est que ça marche. Sa défense est validée et il obtient ses 15 ans. C'est ce qui nous oblige à regarder à la loupe les mots hyper précis qu'il utilise pour justifier sa survie.
La formulation de sa défense est en effet la clé de ce passage.
Dans le texte, il affirme qu'il a « marché devant Dieu avec fidélité et avec un cœur entier ». Et voici où cela devient vraiment intéressant.
Ah, tu aimes bien cette expression, hein ?
C'est vrai. Parce que ces termes de « marché » et de « cœur entier », ça semble un peu générique en surface. C'est presque cliché. Mais l'analyse linguistique de nos sources révèle des profondeurs étonnantes sur ces deux mots.
C'est toute la richesse de l'hébreu ancien. Commençons par le verbe « marcher », si tu veux bien.
Je t'écoute.
L'analyse souligne que dans plus de 75% des cas d'utilisation biblique, ce verbe n'a absolument rien à voir avec le déplacement physique. Ce n'est pas faire une petite promenade, quoi.
C'est quoi, alors ?
C'est une puissante métaphore de la relation à long terme. La foi, dans ce contexte, c'est pas une simple position statique ou une croyance intellectuelle qu'on coche sur un formulaire d'adhésion.
Ce n'est pas juste dire « j'y crois ».
Exactement. C'est un marathon. C'est le mouvement constant du mouton qui décide jour après jour de suivre le berger, d'avancer dans la même direction sur une très longue durée.
Donc une constance. Et ensuite, il y a la deuxième partie de sa défense. Il invoque ce concept de cœur entier, qu'on voit parfois traduit par cœur parfait dans certaines versions.
Oui, parfait, un bien grand mot.
Totalement. Aujourd'hui, l'idée qu'un être humain puisse prétendre avoir un cœur parfait face à l'absolu, ça frôle l'arrogance totale.
Sauf si l'on comprend la racine linguistique derrière ce mot.
Dis-moi tout.
Le terme dérive de la fameuse racine « shalom ». Et là, il y a un énorme malentendu moderne autour de ce mot. On le réduit généralement au concept de paix.
Oui, shalom, on l'associe toujours à la paix.
C'est ça. Mais dans notre esprit occidental contemporain, la paix, c'est simplement l'absence de conflit, tu vois. C'est le silence des armes. Alors que shalom désigne un état d'achèvement, le fait d'être entier.
Ah, être entier.
C'est un vrai concept de plénitude. Imagine une dette colossale qui a été intégralement remboursée jusqu'au tout dernier centime. Ou bien un pot d'argile complètement fracassé, dont chaque petite pièce a été rassemblée et parfaitement restaurée pour retrouver son intégrité originelle. C'est ça le vrai sens du shalom.
Ah ouais. Ça me fait carrément penser au remboursement d'un prêt immobilier, tu sais.
Comment ça?
Bah, tant qu'on paie à l'hypothèque tous les mois, la maison est virtuellement divisée entre nous et la banque. On n'est pas vraiment propriétaire à 100%.
C'est clair.
Mais le jour où le dernier versement est fait, le dernier centime viré, la maison nous appartient dans sa totalité, sans aucune division de propriété. Elle est à nous.
C'est une excellente comparaison.
Mais attention, ça ne veut pas dire que la maison est exempte de défauts. La peinture peut s'écailler, une fenêtre peut coincer, la plomberie peut fuir. Ce qui correspondrait, dans notre métaphore, à nos imperfections morales et humaines quotidiennes.
Oui, on n'est pas parfait.
Voilà. Mais la propriété de la maison, l'engagement fondamental, il est total et exclusif.
Et cette analogie de l'exclusivité, elle est parfaite pour illustrer le point suivant de l'auteur sur la notion de fidélité.
Vas-y.
Le commentaire de la source souligne que, dans les textes prophétiques, si l'adultère est fréquemment utilisé comme la métaphore ultime du péché, ce n'est pas par pur puritanisme moral concernant la sexualité.
C'est pas juste une question de mœurs.
Non, c'est parce que l'adultère, c'est la violation par excellence de cette exclusivité totale dont tu parlais. Dans le monde antique, les humains imaginaient souvent des divinités capricieuses, super transactionnelles et infidèles qui étaient créées à l'image des rois humains de l'époque.
Genre, je te donne ça, tu me donnes ça, et si je trouve mieux ailleurs, je te laisse tomber.
Exactement. Mais le texte biblique insiste lourdement sur le fait que le Dieu hébreu est absolument, totalement et inconditionnellement fiable. Et donc, en réponse à cette fiabilité absolue, il exige un cœur non divisé en retour.
Un engagement de propriété exclusif.
Voilà. Pas de colocation spirituelle, quoi.
D'accord, je vois. Et c'est précisément ce niveau d'engagement ininterrompu qu'Ézéchias a maintenu tout au long de sa vie. Jusqu'à ce moment-là, il avait ce cœur shalom. Il a suivi le berger sans s'écarter.
C'est ce qu'il plaide, en tout cas.
Et sa plaidoirie est entendue. Le miracle se produit. Sa mort est annulée. Il daigne un sursis inespéré de 15 ans de vie.
15 ans, c'est énorme.
C'est énorme. Logiquement, n'importe quelle personne qui survit à une maladie en phase terminale célèbre ça comme une seconde naissance. On s'attendrait à un immense banquet, à des chants de joie triomphants. Mais là,
c'est le grand plongeon.
Le roi rédige un poème post-guérison qui fige le sang par sa noisseur.
Ouais, c'est un document psychologique assez bouleversant à analyser, franchement.
Complètement. Quand on examine attentivement la structure de ce poème, qui est enregistré des versets 10 à 20, la répartition du texte est juste choquante. Sur un total de 11 versets, il n'y en a pas moins de 9 qui sont entièrement consacrés à une complainte lugubre et à une profonde amertume.
9 sur 11. C'est énorme.
Ézéchias s'apitoie complètement sur lui-même. Il déplore de devoir franchir les portes de la mort au milieu de ses jours. Il décrit son angoisse en des termes presque pathétiques, disant qu'il gémit, je cite, « comme une hirondelle, une grue ou une colombe ».
C'est vraiment le portrait d'un homme brisé.
C'est ça. Et sur l'ensemble du poème, ce n'est qu'à la toute fin, dans deux minuscules versets, qu'il esquisse un vague sentiment de gratitude.
C'est super expédié.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Comment un homme qui vient de recevoir la guérison littérale du siècle peut-il être en pleine dépression clinique?
Eh bien, l'explication, c'est que ce poème, ce n'est pas le chant de victoire d'un homme guéri. C'est la crise existentielle d'un homme qui vient d'être percuté de plein fouet par la réalité incontournable de sa propre mortalité.
Le rappel qu'il n'est pas immortel.
C'est ça. Le docteur Oswalt démontre que malgré les 15 ans ajoutés, Ézéchias vient de réaliser viscéralement qu'il n'est qu'un simple mortel. La mort n'a pas du tout été vaincue.
Elle a juste été reportée.
Elle a été repoussée de quelques pages dans son agenda, c'est tout. Et il y a une ironie théologique magistrale qui est tissée ici par l'auteur biblique.
Laquelle ?
Eh bien, dans les chapitres antérieurs d'Ésaïe, il y avait eu des promesses grandioses concernant l'arrivée d'un roi idéal, un Messie, qui était introduit par la célèbre formule « un enfant nous est né ».
Ah oui, la prophétie messianique classique.
Voilà. Et du coup, beaucoup de lecteurs de l'époque auraient pu espérer qu'Ézéchias, par sa fidélité héroïque dont on a parlé, soit ce Messie immortel. Mais ce poème dépressif et terrifié agit comme une preuve définitive.
Une preuve théologique.
Oui. Ça prouve qu'Ézéchias, bien qu'étant un bon et grand roi, n'est absolument pas le sauveur ultime. L'humanité d'Ézéchias est exposée dans toute sa fragilité. Lui aussi finira en poussière.
C'est lourd. Avoir une date d'expiration exacte imprimée sur son front, même à 15 ans de distance, ça change complètement la structure psychologique d'un individu.
Oh que oui, ça bouleverse tout.
On pourrait espérer que cette prise de conscience existentielle le rende infiniment humble, compatissant, concentré sur l'essentiel. Mais c'est tout l'inverse qui se produit.
Et c'est là que le drame commence.
Ce choc de mortalité engendre une insécurité monumentale. Et cette insécurité va se transformer en un complexe de supériorité hyper arrogant. Et ça, exactement au moment où des visiteurs étrangers viennent frapper à la porte de Jérusalem.
C'est le fameux incident relaté au chapitre 39. Le naufrage diplomatique en temps de paix.
L'événement est déclenché par l'arrivée d'ambassadeurs envoyés par le roi de Babylone, qui ont entendu parler du rétablissement spectaculaire du roi de Juda.
C'était les nouvelles internationales de l'époque.
Et il faut mesurer l'effort. Ces diplomates ont entrepris un voyage exténuant de près de 1600 kilomètres. Ils ont remonté toute la fertile vallée de l'Euphrate simplement pour venir saluer le dirigeant de ce minuscule royaume montagneux. C'est pas rien.
C'est un événement diplomatique rare, ouais.
Et là, face à eux, Ézéchias perd tout sens des réalités. Dès qu'ils franchissent les portes, il leur fait le grand tour de la propriété. Il leur exhibe absolument tout. Ses coffres d'or, son argent, ses réserves d'épices précieuses, son arsenal d'armement. Le texte souligne bien qu'il n'y a rien dans son palais ou son royaume qu'il ne leur montre.
Il déballe tout.
Il s'attribue l'entièreté du mérite de sa survie économique et de sa santé, omettant totalement, mais alors totalement, de mentionner le miracle divin, qui est pourtant la seule véritable raison pour laquelle il est encore en vie.
C'est fou d'oublier ça.
C'est de l'insécurité pure. C'est l'équivalent psychologique de l'argent nouveau qui cherche désespérément la validation de la vieille noblesse, tu vois ?
Oui, le complexe du nouveau riche.
Ou, pour prendre une analogie moderne, imagine un jeune maire de campagne, d'une toute petite ville, qui reçoit soudain la visite de puissants milliardaires de la technologie de la Silicon Valley.
Ok, je visualise bien la scène gênante.
Pour les impressionner, au lieu de leur montrer la nature magnifique ou la culture locale, il les emmène dans la salle informatique de la mairie pour leur montrer avec une grande fierté ces trois vieux ordinateurs des années 90 en mode « Regardez comme on est à la pointe de la tech, nous aussi ».
C'est pathétique.
C'est une tentative pathétique de prouver sa propre valeur à des gens qui de toute façon jouent dans une toute autre ligue.
Et ce qui est fascinant ici, c'est l'asymétrie culturelle et géopolitique que tu pointes du doigt avec ton analogie. Les notes d'enseignement soulignent ça avec force.
Ah oui, le décalage entre Babylone et Juda.
Pas seulement Juda, mais avec l'Assyrie aussi. Babylone, à ce stade précis de l'histoire, c'était un état vassal sous la domination de la redoutable machine assyrienne. Mais l'empire assyrien, bien que militairement tout-puissant, était perçu par les Babyloniens comme composé de brutes incultes.
Genre des paysans avec des grosses épées, quoi.
Exactement. La Babylonie, elle, se considérait comme le centre intellectuel, architectural et sophistiqué de toute la Mésopotamie. L'analogie employée par nos sources est frappante. Babylone se voyait comme le New York ou le Washington DC du Proche-Orient antique.
L'élite absolue.
Voilà. Et donc, quand ces élites urbaines suréduquées arrivent dans la petite Jérusalem, elles ne sont absolument pas impressionnées par les quelques coffres d'or d'Ézéchias. Le trésor de Juda, ça devait leur ressembler à de l'argent de poche comparé aux richesses des grandes cités mésopotamiennes.
C'est clair qu'ils n'ont pas voyagé 1600 kilomètres pour voir de l'or. L'or, ils en ont largement chez eux.
Et oui, ils ont fait ce voyage interminable parce qu'ils étaient intrigués par une anomalie mystique, par des rumeurs de guérison défiant la médecine antique ou peut-être même par des phénomènes astronomiques qui étaient associés à ce miracle dans les textes babyloniens.
Ils venaient pour le miracle.
Ézéchias avait entre les mains une opportunité historique, géopolitique et spirituelle monumentale. Il aurait pu enseigner la sagesse divine, partager une conception complètement différente de l'univers, avec l'Empire qui, bien qu'il ne le sache pas encore, allait bientôt remplacer la Syrie et dominer le monde entier.
Et au lieu de ça ?
Au lieu de ça, par pure vanité, il a réduit cette rencontre à un vulgaire concours de richesses matérielles qu'il ne pouvait, de toute façon, pas gagner.
Quelle erreur stratégique ! En cherchant à éblouir l'Empire de demain avec des biens matériels périssables, il n'a fait qu'aiguiser leur appétit. Et ce besoin d'impressionner va sceller de manière dramatique le destin de ses propres enfants.
La suite est terrible.
Sitôt les ambassadeurs repartis sur la route de Babylone, le prophète Ésaïe fait son retour dans la salle du trône pour exiger des comptes.
Et la confrontation est glaciale. Le jugement ne se fait pas attendre.
Ésaïe demande au roi ce qu'il a montré à ses hommes. Et Ézéchias, avec une naïveté vraiment déconcertante, avoue avoir tout montré. Ésaïe prononce alors une prophétie dévastatrice. Il annonce que les jours viendront où l'intégralité de ce trésor, chaque pièce d'or, chaque objet précieux que ses ancêtres ont amassé et qu'il vient d'exhiber fièrement, sera emporté. À Babylone.
La pillage totale.
Rien ne sera laissé. Mais la condamnation matérielle, ce n'est même pas le plus grave. Ésaïe ajoute une horreur hyper intime. Les propres fils d'Ézéchias, sa descendance royale, la lignée de David qui était censée régner pour toujours, eh bien, ils seront physiquement arrachés de Jérusalem.
C'est tragique.
Ils seront emmenés captifs pour devenir des eunuques au service du palais du roi de Babylone. Fin de la lignée, fin de la promesse.
Et si on relie cela à la vue d'ensemble de l'œuvre d'Ésaïe, ce moment précis, ça agit comme le pivot structurel et théologique de tout le livre, en fait.
Ah oui, c'est la grande charnière du livre.
C'est ça. C'est la transition cruciale vers la deuxième grande partie, les chapitres 40 à 66. Jusqu'à présent, le lecteur et les Israélites vivaient dans la terreur absolue de la Syrie.
C'était le grand méchant loup ?
Voilà. Mais le texte révèle soudainement que la Syrie n'était qu'un orage passager. L'ouragan cataclysmique qui va vraiment rayer la nation de la carte, c'est cette même Babylone avec qui Ézéchias vient juste de flirter.
C'est glaçant d'ironie.
Le docteur Oswald insiste sur le fait que l'insertion de cette scène, à cet endroit précis, n'est pas qu'un récit historique, c'est une véritable intervention pastorale de l'auteur. Le but, c'est de préparer psychologiquement les générations futures.
Pour ne pas qu'ils soient surpris.
Exactement. Lorsque le cauchemar de l'exil babylonien s'abattra réellement sur la nation, 150 ans plus tard, ces mots rappelleront aux captifs que cette tragédie n'est pas un accident de l'histoire ou une genre de défaite du divin face au dieu babylonien.
Tout avait été vu, pesé et anticipé.
C'est ça.
C'est vraiment un avertissement jeté comme une bouteille à la mer à travers les siècles pour les futurs exilés. Mais franchement, ce qui choque le plus le lecteur contemporain, je trouve, ce n'est pas tant la prophétie en elle-même, c'est la réaction du roi face à cette annonce.
Oh oui, sa réaction est lunaire.
On vient de dire à Ézéchias que ses enfants subiront des mutilations atroces et finiront esclaves. Et sa réponse ? Il regarde le prophète et il dit tranquillement « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant mes jours. »
C'est consternant.
C'est d'un égoïsme glaçant. Il dit essentiellement « Après moi le déluge. Tant que mon règne à moi est paisible, le sort de mes arrière-petits-enfants, franchement, ça ne m'intéresse pas. Comment tu expliques une telle déconnexion empathique ? »
On touche ici au cœur du problème psychologique d'avoir gagné exactement 15 ans de vie.
C'est le délai qui fait ça, hein ?
Ouais, quand ton horizon temporel est défini avec une telle rigidité, le monde au-delà de la 15e année, il cesse complètement d'exister pour toi. Mais c'est aussi un schéma humain beaucoup plus récurrent qu'on le pense.
Ah bon ? Comment ça ?
Les effondrements éthiques et moraux les plus sévères surviennent extrêmement souvent dans le sillage immédiat d'une immense victoire ou d'un grand sommet d'expérience spirituelle.
Quand la pression retombe, tu veux dire ?
C'est ça. La tension retombe, on relâche sa vigilance morale et on s'installe dans le confort. La confiance héroïque dont Ézéchias a fait preuve lors du siège de Jérusalem face à la Syrie, ce n'était pas supposé être une décharge d'adrénaline temporaire réservée uniquement aux situations de crise aiguë.
Ce devait être une posture constante.
Exactement la fameuse marche à pas constant dont on parlait tout à l'heure. L'engagement au jour le jour, ça devait se poursuivre dans la banalité du quotidien, dans les moments d'abondance et de paix. Ézéchias a remporté la guerre haut la main, mais il a été totalement incapable de gérer psychologiquement la paix.
C'est triste. Et ça nous conduit directement à l'enseignement central de cette longue plongée dans ces textes de l'Antiquité. L'histoire de ce roi, méticuleusement examinée dans ses notes, s'adresse le portrait fascinant d'une grandeur brisée, quoi.
Oui, un héros très imparfait.
Ézéchias a brillé par une confiance inouïe lorsque l'extinction menaçait son peuple. Mais sa chute pathétique face à des simples visiteurs, son arrogance et son cynisme final, ça vient prouver une loi incontournable. La perfection humaine n'existe pas.
Non, malheureusement.
Même le dirigeant le plus intègre finit par céder aux sirènes de son propre ego ou par se réfugier dans un confort hyper égoïste. La quête d'un leader purement humain capable de tout sauver, elle est toujours vouée à l'échec.
C'est le rappel permanent et un peu rude, il faut l'avouer, de notre propre fragilité. Et d'ailleurs, le commentaire historique glisse un dernier détail. Une petite synchronicité temporelle assez sombre pour clôturer cette analyse.
Ah oui, c'est vrai. Ce détail concernant le fameux héritier d'Ézéchias, son fils, le roi Manassé. L'histoire retient Manassé comme étant possiblement le souverain le plus maléfique, le plus destructeur moralement que la nation ait jamais connu.
Il a plongé le royaume dans une brutalité sans nom, oui.
Or, les chroniques historiques précisent que Manassé avait exactement 12 ans lorsqu'il a accédé au trône à la mort de son père.
12 ans ? Et si on fait les mathématiques simples ?
Ouais. Un garçon de 12 ans, succédant à un roi qui avait reçu un délai de grâce de 15 ans, cela signifie incontestablement que ce tyran est né pendant cette fameuse prolongation de 15 ans que le roi avait si désespérément arrachée par ses prières enflammées au bord de son lit de mort.
C'est terrifiant quand on y pense. Les conséquences de ces années supplémentaires ont donc été littéralement catastrophiques pour l'histoire à long terme du pays.
Ce qui amène une pensée finale que l'on pourrait ruminer longtemps après cette exploration. En observant ce destin de près, en sachant que ces 15 années obtenues de force ont produit le narcissisme d'Ézéchias, ont provoqué l'invitation fatale de Babylone et ont permis la naissance du pire fléau du royaume.
Ouais.
Eh bien, on est en droit de se poser une question troublante pour nous-mêmes aujourd'hui. Y a-t-il des moments dans nos propres trajectoires où le silence lourd face à nos demandes les plus brûlantes ou bien le refus de nous accorder ce que nous désirons avec la plus grande énergie s'avère en réalité être un bouclier invisible ?
Une protection contre nous-mêmes.
Exactement. Une protection silencieuse contre les pires versions de nous-mêmes et contre nos propres désastres futurs. Parfois, la porte qui refuse de s'ouvrir est peut-être la seule chose qui nous empêche de tomber dans le vide.